travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Donc vous le savez, je me présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, de ceux qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie, dans des conditions d'ailleurs de plus en plus dures et en étant de moins en moins payés, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays et qu'ils ont des droits pour lesquels ils veulent se battre. Quand on appartient au monde du travail, voter pour Le Pen, Fillon, Valls, Hamon ou Macron, c'est voter contre son camp, contre ses intérêts. C'est tendre le bâton pour se faire battre, parce qu'ils aspirent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Ils sont socialement étrangers à la classe ouvrière. Et malgré leurs discours hypocrites en période électorale, ils lui sont hostiles. Fillon vise les voix de la France des beaux quartiers. Et il a le mérite, si l'on peut dire, d'annoncer la couleur. S'il est élu, ce sera la loi El Khomri puissance 10, la fin de la sécurité sociale, la suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Mais regardez comment les Valls, les Hamon ou les Macron cherchent encore à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont participé à un gouvernement qui a fait reculer l'âge de la retraite, qui a augmenté la TVA. Ils ont donc aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail. Ils l'ont aidé à licencier. Et les voilà aujourd'hui qu'ils nous promettent de tout changer. Macron ou Hamon s'érigent en petits nouveaux de la politique, pleins d'idées soi-disant fraîches et originales. Comme si remettre des bus sur les routes et transformer les chauffeurs de taxi en esclaves de la route était moderne. Quant à Hamon, il s'est singularisé, vous le savez, avec cette idée d'un revenu de base universel. Et il parle de 750 euros d'ici à 2022. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais cette gauche qui fait rêver sans s'engager à s'en prendre aux grandes fortunes et aux profits du patronat a toujours trahi. Alors, on ne veut ni de leur boniment, ni de leur charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Et les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. La fortune d'un Bernard Arnault, le patron de LVMH, s'élève à 39 milliards d'euros, eh bien, elle a augmenté de 7 milliards d'euros en une année. Alors non, ce n'est pas l'aumône que nous voulons, c'est une politique qui représente nos intérêts, c'est-à-dire avoir un travail et un salaire, le droit d'être soigné et d'être logé dignement, le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation et le droit d'avoir une retraite décente. Et ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens, se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut par exemple baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre compétitives les entreprises françaises, eh bien elle justifiera, comme tous les autres, l'allongement du temps de travail, le blocage, voire la baisse des salaires, la réduction des cotisations patronales et de leurs impôts. Et elle n'hésitera pas, comme les dirigeants britanniques après le Brexit, comme Trump, aujourd'hui aux États-Unis, à baisser encore le taux d'imposition sur les sociétés au nom de la compétitivité. Tous les sacrifices qu'on nous impose depuis des années au nom de la mondialisation de l'économie, eh bien Le Pen va nous les imposer, nous les imposera peut-être, au nom du souverainisme et du protectionnisme. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête, pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et les plus pauvres, à condition bien sûr qu'ils soient français. C'est une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimentent, pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Elles s'indignent, par exemple, que l'on donne 11 euros par jour à un demandeur d'asile. Pas qu'un PDG comme Carlos Ghosn chez Renault-Nissan gagne 45 000 euros par jour, pas qu'une Madame Bettencourt empoche 1 million d'euros par jour sans rien faire. Elle se dit révulsée qu'on héberge des migrants plutôt que des SDF français. Mais elle ne s'indigne pas qu'il puisse y avoir justement des SDF, non. Elle nous explique qu'il y a deux sortes de sans-abri et que l'une d'entre elles peut crever. Alors en réalité, Le Pen, Montebourg, Hamon, Valls, Fillon sont en rivalité pour la mangeoire, mais ils se préparent tous à servir la bourgeoisie. À l'opposé, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, les Dassault, Peugeot, Michelin, parce que leur propriété s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour le grand patronat, c'est 20% de moins pour les travailleurs. Parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos salaires ou de nos retraites. Ce sont leurs sinécures ou nos emplois. C'est le pouvoir du grand capital ou le pouvoir des travailleurs. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut choisir son camp. Et le nôtre, c'est le camp des travailleurs. Et faire entendre le camp des travailleurs, c'est faire entendre les intérêts de tous les exploités. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs, qui doivent travailler pour gagner leur vie et qui ont eux aussi à se battre au quotidien contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas des chauffeurs VTC contre la plateforme Uber. C'est encore le cas des agriculteurs contre la grande distribution. Et puis bien sûr, il ne s'agit pas seulement des travailleurs français. Je le précise, parce que dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats. C'est une spécialité de Le Pen qui oppose systématiquement les travailleurs les uns aux autres, en fonction de leur nationalité, de leur confession, qui sème la haine et le rejet de l'autre et qui favorise en retour le repli communautaire. Eh bien, il faut s'y opposer. De la seule façon possible, c'est-à-dire au nom de l'idée que nous faisons tous partie d'un même camp, le camp des travailleurs. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre religion. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignantes, des caissières, des enseignants, parfois au chômage, parfois en activité. Alors, il faut serrer les rangs, rejeter tous ceux qui veulent dresser des murs entre nous et il faut affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et celle des exploités. Faire entendre nos intérêts à l'opposé de la politique patronale est ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense. Les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai prochain sera un ennemi des travailleurs. Eh bien, il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien, ne laissons pas le monopole à ces politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous. Disons tout le mal que l'on pense de cette société capitaliste. Et parallèlement à leur comédie électorale, mettons en avant nos idées, notre propre politique, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat, et à sa suite tous les politiciens, prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commandes assurées et garanties. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas et des carnets de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois et même quand on a perdu son boulot, eh bien il faut remplir l'estomac des enfants. Alors, il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens et d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez PSA. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices. Et PSA a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année et a supprimé 4 500 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore 650. Ils se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciements. Mais c'est autant d'emplois qui disparaissent. Et au final, cela fait des dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Alors il faut commencer par stopper tous ces grands fabricants de chômeurs. Et bien sûr, je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent des grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes et les banques soient mises à contribution et qu'ils payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Et puis, parallèlement à cette mesure de sauvegarde, eh bien, il faut aussi créer des millions d'emplois. Pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été accrue. Les horaires de travail, auxquels il faut ajouter maintenant le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet. Il faut faire exactement le contraire de ce que toutes ces grandes entreprises font avec leur plan de compétitivité et qui concentrent le travail sur de moins en moins de salariés en leur imposant des heures supplémentaires et des samedis travaillés obligatoires. Et puis, regardez ce qui se passe avec l'épidémie de grippe. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignants dans les hôpitaux? Regardez ce qui se passe. Regardez ce grand gâchis qui est l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? Est-ce qu'il y a trop de professeurs des écoles dans les zones d'éducation prioritaire? Et pour ce qui est des logements, il manque 1 million de logements accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans cette société et donc il y a autant d'emplois à créer. Alors certains nous expliquent qu'avec la modernisation des moyens de production et les gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Parce que ces robots et les gains de productivité devraient permettre de soulager les salariés, de baisser les cadences et le temps de travail de tous. Mais cela suppose bien sûr, que l'on fasse passer les intérêts des travailleurs et de l'ensemble de la population avant les profits d'une minorité. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs que nous compterons, c'est 7 millions, 8 millions de chômeurs. Alors la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Parce que le chômage est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, mais aussi il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, la priorité, c'est un travail et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent tous qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé d'augmentation du SMIC payée par les entreprises. Parce que, dit-elle, cela créerait beaucoup trop de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir. Les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent, eh bien ce n'est pas notre cas. Alors, nous reprenons une revendication que la CGT met en avant, c'est celle d'un salaire minimum de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ces comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, et parfois bien davantage. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et puis, en plus de tout ça, il faut payer l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin du mois, il reste moins d'une vingtaine d'euros par jour pour payer la nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante quand on est payé au SMIC aujourd'hui. Et c'est sans parler de l'accès aux loisirs et à la culture qu'on s'interdit. Alors, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et les pensions de retraite. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, ils doivent être transformés en salaire, car tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile. Et ces 1 800 euros ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 154 euros net, était de 1 000 euros. 1 000 euros, et déjà à l'époque, il avait pris du retard sur l'inflation. En 10 ans, le SMIC a donc augmenté de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les salaires des grands PDG? De 65% en 10 ans. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation avec celle de l'année précédente, sa facture d'électricité ou d'assurance, pour voir que les prix augmentent. Beaucoup disent que l'euro a fait baisser le pouvoir d'achat des couches populaires. Le pouvoir d'achat a en effet reculé au moment du passage à l'euro, mais il avait déjà reculé du temps du franc. Et puis, il continue encore de reculer. Alors notre intérêt de travailleur, ce n'est pas de réclamer d'être payé dans une monnaie plutôt que dans une autre. Le patronat paiera des salaires tout aussi misérables en francs qu'en euros. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Et puis, je voudrais rajouter que de bonnes âmes qui sont, elles, souvent bien payées, bien plus que 1 800 euros par mois, m'ont déjà expliqué à maintes reprises que ce programme est complètement utopique et qu'il forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Je parle de 1 800 euros par mois et on me parle d'utopie. C'est donc de l'utopie d'espérer vivre sans avoir compté le moindre euro. C'est de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer des études à ses enfants, le permis. Mais les Carlos Ghosn, les Tavares, les PDG des grandes entreprises, les Arnaud, les Bettencourt avec leurs dizaines de milliards d'euros, ils ne vivent pas dans l'utopie, eux. Ils vivent dans le monde réel, dans notre monde. Alors dire que 1 800 euros par mois, c'est une utopie, c'est un choix de classe. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Pour y parvenir, il faudra renouer avec les luttes collectives et imposer un rapport de force avec le patronat. Et un rapport de force tel qu'il prenne peur et qu'il lâche sur nos revendications. La société est riche, très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune accumulée au détriment des travailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et même s'il est de bon ton pour tous les politiciens de parler de transparence, de dénoncer l'évasion fiscale, ils continuent tous de défendre le secret des affaires et d'interdire aux salariés de divulguer les informations dont ils disposent sur les comptes des entreprises. Par exemple, en avril dernier, les députés européens du PS, de l'UDI, du MoDem, de la droite et du Front National se sont tous retrouvés pour voter, comme un seul homme, la directive européenne sur la protection du secret des affaires. Et pour cause, si les travailleurs avaient accès à toutes ces comptabilités, eh bien ils mesureraient qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps sur l'économie. Oui, en levant le secret bancaire et commercial, eh bien on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs de communiquer les informations qu'ils ont. Et il y a bien des salariés qui sont révoltés par les agissements de leur direction, parce qu'ils savent qu'ils sont contraires aux intérêts des travailleurs, de la population et de l'environnement. Ils sont souvent les premiers à tirer la sonnette d'alarme, simplement parce qu'ils sont aux premières loges et qu'ils voient ce qui se passe. Alors, il faut leur donner les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Et cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, ils pourraient s'organiser face aux attaques patronales et ils pourraient bien sûr prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui doit nous orienter dans nos combats quotidiens. Et c'est un programme de survie pour les couches populaires qui découle de nos besoins. Et oui, c'est aussi le plus radical, parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence, la compétitivité comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives, dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons engager le bras de fer avec le patronat et nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore réellement agir et se battre. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées et le combat politique. Le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie, en tout cas pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent aussi après les élections. Car les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts au moment des élections, ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts irréconciliables, et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire un parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau, et d'élection en élection, de mouvement, de grève en manifestation, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque aujourd'hui aux travailleurs. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour porter sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais concrètement, elle ne débouche que sur peu d'engagements concrets. Mélenchon promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1 326 €, les vrais 35 heures. Mais même ces quelques promesses à destination des travailleurs sont des promesses en l'air, car tant qu'on ne dit pas comment on l'imposera au grand capital, qui décide de tout aujourd'hui, tant que l'on ne se dit pas prêt à arracher ce pouvoir à la minorité capitaliste, eh bien on parle pour ne rien dire. Car c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait fait. Mais il faut dire si l'on est prêt ou pas à la renverser. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie, pas la propriété privée sur les moyens de production. Et avec d'autres, y compris avec Le Pen et Mélenchon, avec Le Pen et Montebourg, eh bien Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions, nous dit-il, souverains. Le pouvoir reviendrait au peuple, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc. C'est Bettencourt, la reine des cosmétiques. C'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Et quand on est exploité, eh bien on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France dans une 5e ou dans une 6e république ou à l'échelle de l'Europe. On est dépendant de cette classe qui possède des capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Alors parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. Alors, laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Une émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Bien sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi. Parce qu'il est compatible avec le système. Parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives et qui veulent se raccrocher à un énième sauveur suprême seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part si ce n'est à des nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour porter sa candidature à la présidentielle, notre campagne et le vote pour faire entendre les intérêts des exploités nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire. Ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail ne doit plus être synonyme de victime. Appartenir au monde du travail doit au contraire être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, y compris quand on est au chômage. Parce que quand on est au chômage un temps, on retourne au boulot, justement pour boucher les trous et pour faire tourner le système. Eh bien, nous, tous ensemble, nous faisons tout tourner dans cette économie. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous pouvons être fiers d'appartenir à la classe des travailleurs, parce que nous sommes indispensables. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie, mais ils ne sont rien sans nous. À quoi pourraient bien servir leurs milliards si nous ne faisions plus marcher les trains, les avions, les hôtels et les restaurants de luxe? Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Car le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population. Il a réquisitionné tous les logements pour que chacun ait un toit, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Et il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant, en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas seulement Il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la déchéance morale. Regardez comment les migrants sont traités aujourd'hui. La justice a même inventé un nouveau crime, le crime d'humanité, contre ceux qui donnent à manger et un toit aux migrants dans la vallée de la Roya et qui sont poursuivis aujourd'hui en justice. Alors oui, la société s'enfonce dans la barbarie. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements et du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. D'ailleurs, là-dessus, tous les candidats sont d'accord. Enfin, les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches, nous disent-ils, Et ils nous répètent tous en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce n'est pas la misère pour tout le monde. Dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot, les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions, l'argent gaspillé dans la spéculation se compte par centaines de milliards, et on ne pourrait rien faire contre la misère. Ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils veulent nous convaincre qu'on ne peut pas assurer un travail, une retraite décente pour tous. En réalité, la misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et leurs bombes, et ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. En tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Alors, notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour que l'on se partage la misère. C'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux. Ils n'ont rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toute religion, de toutes les couleurs de peau. Mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme qui pousse à l'indifférence, à l'isolement, à la haine de l'autre et qui fait le lit de la délinquance ou du fanatisme religieux, eh bien les travailleurs représentent la seule force sociale qui est capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales, du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Alors voilà aussi tout ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste. Alors oui, nous sommes fiers de nous revendiquer de ce camp-là. Alors évidemment, dans cette élection, ce qui est en jeu, ce n'est pas la prise du pouvoir par les travailleurs. Mais il s'agit que ceux qui ne se résignent pas à la situation et qui sont conscients d'avoir à se battre pour leurs intérêts de classe se manifestent politiquement et constituent un point de ralliement. Depuis des décennies, l'élite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers, nos villages sont composés de rentiers ? Non, ils sont composés de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient peut-être fiers d'être indépendants il y a un an ou deux, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu intervenir contre la loi El Khomri. Et encore, cette mobilisation n'a regroupé qu'une fraction de la classe ouvrière. Il y avait encore beaucoup de réserves dans les entreprises. Eh bien, il faut que cette classe sociale s'exprime aussi sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement, le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour l'un ou pour l'autre ? Eh bien, dans cette élection, c'est un peu la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui imposera plus, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui aidera le patronat à baisser nos conditions de vie et de travail. Eh bien, il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. Alors, j'appelle tous ceux qui partagent les idées que je viens d'énoncer à voter pour ma candidature, sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité si cela conduit à élire un adversaire. Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Et il faudrait recommencer avec un autre ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire pour essayer de se protéger est un leurre également. Parce qu'il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier tant qu'il ne renouera pas avec des luttes collectives puissantes. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Alors parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul, parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne, c'est un geste à la portée de tous. Il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, justement, la moindre voix compte et peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière. Alors bien sûr, je serai en première ligne dans les médias. Et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Mais en quelques minutes, je ne ferai pas de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus et je toucherai peut-être aussi tous ceux qui sont révoltés par la situation mais qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. Ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, une campagne comme celle-ci relayée au niveau national permet justement de s'adresser à des millions de femmes et d'hommes. Et parmi ces millions, eh bien, il y en a plusieurs centaines de milliers qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp, et elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus, qui s'interrogent. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes, tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même plus entendre parler de politique ou de vote. Ils sont dans notre famille. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation. Mais les idées que nous portons nous dépassent, parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle sont confrontés des millions d'exploités. Et tôt ou tard, eh bien, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles, et n'attendez pas que j'apparaisse plus dans les médias, parce que je serai absente des grandes émissions jusqu'aux 15 derniers jours, où ils seront contraints de m'inviter. Je ne vais pas développer plus là-dessus, mais tout simplement, on ne fait pas partie du paysage. Et d'un certain côté, c'est une reconnaissance. Nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste. Nous n'aspirons pas à en faire partie. Alors voilà, tout ça pour dire que pour que ce soit une bonne campagne, il ne faut sûrement pas que cela reste ma campagne. Il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne à tous. Et pour finir, un petit effort de projection dans l'avenir. Au lendemain de l'élection, en mai 2017, qu'est-ce qui changera pour nous ? On ira au travail, pour ceux qui en ont un. Les autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même si on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous. Parce que ces élections, eh bien, elles ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social qui est dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Et pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui préparera les travailleurs au combat nécessaire de demain.